Elle alla trouver Madame Yolande au salon, mais elle oublia les grenouilles et les fées en voyant près d'elle un personnage dont l'air et le costume lui causèrent de l'éblouissement. C'était un grand jeune homme blanc, rose, frisé, poudré à la mode de ce temps-là, en bel uniforme d'officier bleu de ciel tout galonné d'argent. Il se leva et, marchant avec beaucoup de grâce, comme s'il eût voulu danser le menuet, il vint à la rencontre, lui baisa la main et lui dit d'une petite voix flûtée « C'est donc vous, ma chère cousine Marguerite ? Je suis heureux de refaire connaissance avec vous. Vous êtes grandie, mais votre figure n'a point du tout changé. » Marguerite rougit, car elle prit cela pour un compliment et ne sut que répondre. Elle ne reconnaissait pas du tout celui qui l'appelait « ma cousine ». « Cher enfant, lui dit Madame Yolande, tu ne te rappelles donc pas ton cousin Mélidor ? Il est vrai que tu étais toute petite quand il est parti simple officier. À présent qu'il a 20 ans, ses parents lui ont donné un régiment, et tu vois un colonel de dragons. Embrassez-vous, mes enfants, et soyez bons amis, comme autrefois. » Marguerite se souvint alors de ce cousin qu'elle n'avait jamais pu souffrir parce qu'il était taquin et désœuvré. Pourtant, comme elle était sans rancune, elle lui tendit sa joue, qu'il toucha du bout des lèvres avec un air de moquerie qui lui fit de la peine. Elle pensa qu'il était ingrat ou qu'il ne se souvenait plus de toutes ces méchancetés qu'il avait à se faire pardonner. Cependant, il reprit la conversation et elle l'écouta bouche bée car il racontait des merveilles de Paris, des spectacles, des fêtes et des bals où il s'était distingué. Il parlait de la mode et des toilettes et paraissait si au courant et si bon juge des parures de femmes que Marguerite fut toute honteuse de sa petite robe d'indienne à fleurs rouges et du maigre ruban vert qui retenait ses beaux cheveux. Pour lui, il ne faisait aucune attention au dépit qu'il lui causait, et Madame Yolande ne paraissait point trouver son petit-neveu aussi frivole qu'il était. Elle souriait en écoutant ses niaiseries, comme si elle eût pris plaisir à se rappeler le temps où elle faisait grande figure dans le monde. On servit le dîner. Monsieur Puy-Percé trouva fort médiocre toutes même ces pâtisseries que Marguerite faisait fort bien et que tous les hôtes de la maison avaient coutume d'apprécier. Il méprisa tout à fait le cidre du pays qui était délicieux et ne se gêna point pour demander du vin de champagne que sa grand-tante lui fit servir, qu'il déclara fort plat et dont il but toutefois plus qu'il n'était nécessaire pour déraisonner. Alors Madame Yolande s'aperçut de son mauvais ton et lui dit « Mon cher enfant, allez vous coucher. Demain, vous saurez peut-être ce que vous dites. J'aime à croire qu'on vous enseigne la politesse et que quand vous êtes dans votre bon sens, vous ne dépréciez pas ainsi d'une façon impertinente les choses qui vous sont offertes de bon cœur. » Marguerite fut contente de la leçon qu'il recevait et s'endormit sans songer à lui. Pourtant, comme il y a toujours un peu de vanité au fond du cœur le plus raisonnable, quand elle s'habilla le lendemain, elle reprocha à sa fille de chambre de lui apporter toujours ses plus vilaines robes. Elle en avait dans son armoire d'assez belles qu'elle ne mettrait jamais. La fille de chambre lui présenta alors une robe de soie jaune très riche que Madame Yolande lui avait donnée et qui était toute rehaussée de rubans couleur de feu. Madame Yolande n'était ni pauvre ni avare, mais elle vivait depuis si longtemps à la campagne qu'elle ne connaissait plus rien à la toilette. Et comme Marguerite n'avait point coutume de s'en soucier, préférant les jupes courtes et les étoffes solides pour courir et jardiner, la pauvre enfant, quand on la forçait à se faire belle, avait l'air d'une vieille endimanchée. C'était une belle occasion pour le jeune Puy-Percé de se moquer d'elle. Il ne le fit pourtant point, la leçon de Madame Yolande lui avait profité, et Marguerite fut surprise de le trouver très aimable et très poli. Elle lui sut gré des excuses qu'il lui fit de sa migraine de la veille, laquelle, disait-il, l'avait rendue maussade. Enfin, il lui parla de manière à lui faire oublier tout ce qui lui avait déplu, et à son tour, elle désira lui être agréable. Après le déjeuner, elle lui proposa de visiter ses nouveaux jardins. Elle l'y conduisit et se réjouit de le voir s'amuser de tout, s'enquérir de toutes choses et de ne plus rien déprécier. Il regarda les poissons rouges et lui demanda s'ils étaient bons à manger. Il admira les renoncules, qu'il appela des tulipes, et se divertit à voir nager les cygnes, disant qu'en chasse, ce serait un beau coup de fusil. Une seule chose inquiéta Marguerite, c'est que Névé, comme il eut entendu les paroles de Puy-Percé, entra dans une furieuse colère et le poursuivit à grands coups d'ailes et de bec. Elle craignit qu'en se sentant ainsi attaqué, le colonel de dragons ne fût une défense où le pauvre cygne eût succombé. Il n'en fut rien. Le beau colonel se réfugia d'abord vers sa cousine, puis voyant qu'il ne pouvait faire un pas sans que Névée s'acharnât lui pincer les mollets, il prit la fuite et se planta tout pâle derrière la grille du jardin qu'il eut soin de fermer entre le cygne et lui. Marguerite eut de la peine à repousser l'oiseau exaspéré et à rejoindre son cousin dont la frayeur l'étonna beaucoup. Il s'en justifia en lui disant qu'il avait craint de se mettre en colère et de tuer en se défendant une bête qu'elle aimait. Elle était en train d'excuser tout et elle l'excusa et le mena dans la campagne où elle lui montra les beaux grands arbres qui entouraient la garenne. « Et combien valent-ils ? » lui demanda Monsieur de Puypercé.
« Ben vraiment, je ne sais pas, » répondit Marguerite. « Ils ne sont point à vendre. »«
Mais quand ils seront à vous ? Votre grand-mère m'a dit ce matin qu'elle comptait vous donner après sa mort tout ce qu'elle possède dans ce pays. » »«
Elle ne m'a jamais parlé de cela, et je vous prie, Mélidore, de ne pas me parler de la mort de ma grand-mère. »
Il faudra bien pourtant vous y résoudre. La voilà très vieille, et elle désire vous marier auparavant.
Mais je ne veux pas me marier, s'écria Marguerite. Je ne veux pas risquer d'être obligée de quitter ma bonne maman, qui m'a élevée et qui est ce que j'aime le mieux au monde.
C'est très gentil de penser comme cela, mais ma tante Yolande mourra bientôt, et vous ne serez pas fâchée de trouver un beau mari qui vous fera riche en vendant tous ses champs, tous ces prés et ce vilain vieux château où vous êtes comme enterrée vivante. Alors, ma chère Marguerite, vous porterez des habits magnifiques à la dernière mode. Vous irez à la cour, vous aurez un beau carrosse, des grands laquais, des diamants, une loge à l'opéra, un hôtel à Paris, enfin, tout ce qui peut rendre une femme heureuse. D'abord, Marguerite fut très chagrinée d'entendre son cousin parler de la sorte. Mais tout en parcourant avec elle ses bois, ses champs et ses prairies, qu'il examinait et dont il supputait la valeur, il revint si souvent à cette idée qu'elle serait très riche et bientôt mariée à son gré, qu'elle commença d'y songer et de s'étonner de n'y avoir jamais songé encore. Fin de la première partie.